pour clore cette première partie de la matinée, nous vous proposons une masterclass à trois voix, comme une conversation croisée entre trois figures emblématiques du New Space français, au parcours aussi inspirant que singulier. Ils sont tous les trois chefs d'entreprise, pionniers et surtout acteurs de la transformation concrète de notre filière. J'appelle Anne Hansland, Nicolas Capet et Antoine Rostand.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui pour échanger sur vos parcours, vos activités d'entrepreneur et les activités de vos différentes entreprises. Alors peut-être pour commencer, un petit mot pour vous présenter. Anne, docteur en physique, chercheuse du CNRS spécialisée dans la physique des plasmas. Vous avez cofondé TrustMe en 2017 pour développer une nouvelle génération de propulseurs de satellites miniaturisés. Et récemment, il me semble que TrustMe a annoncé son 100e moteur en orbite, avec une cadence de production en forte augmentation. Oui, merci d'être merci. Là.
Nicolas Capet, ingénieur et docteur en électromagnétisme. Il fonde en 2017 N-Waves et fait partie de cette première génération de Space Tech française. Équipementier basé à Toulouse, N-Waves a depuis livré plus de 1600 antennes, c'est bien d'accord, à travers le monde et a récemment renforcé son outil industriel.
Et enfin, Antoine Rostand, CEO de Kairos, issu de l'École Polytechnique. Vous poursuivez vos activités dans le secteur des énergies. Et en 2016, vous décidez de fonder la société Kairos pour recourir à l'intelligence artificielle pour analyser les données d'observation de la Terre, qui étaient déjà très nombreuses. Et désormais, Kairos a depuis développé différents produits, des produits pour la détection des gaz à effet de serre, pour l'analyse des risques climatiques et pour les suivis de la logistique et de l'énergie. Nous sommes ravis de vous accueillir tous les trois aujourd'hui pour partager votre expérience, vos intuitions, vos échecs, mais aussi échanger sur vos succès. Alors peut-être pour commencer, une première question, Nicolas. Si tu pouvais nous raconter peut-être ton parcours personnel et comment tu es arrivé à créer N-Waves.
Avec plaisir. Bah, ça commence à remonter, hein, parce que ça fait maintenant 8 ans. 8 ans qu'on existe, et puis ce chemin avait commencé un peu avant. Donc moi, je viens du CNES, hein, j'ai eu la chance de pouvoir travailler à peu près 7-8 ans pour le CNES. J'ai fait des antennes, hein, donc N-Waves fait des antennes pour l'espace, du lanceur, des petits satellites jusqu'au rover. Et en fait, bah, c'était vraiment la période où le gros du marché commercial était orienté sur les télécoms. On avait Constellation Galileo qui était en cours de développement, etc. etc. Et puis, voilà, on vivait un petit peu là-dessus, avec un tissu industriel extrêmement compétent, avec beaucoup d'expérience. Et puis, est arrivé un petit peu, alors, ce que certains appellent le New Space, moi, des fois, que j'appelle finalement Space 2.0, puisque comme on a connu Internet et Internet 2.0, qui technologiquement, en fait, a été une vraie révolution, même si le concept était déjà là, avec des grosses mutations en termes de marché global, en termes d'industrialisation, en termes de réduction des délais pour accéder au marché, etc. etc. Et il y avait beaucoup de questionnements, d'incertitudes à ce moment-là. Moi, j'étais absolument fan et dévoué à mon métier qui était de soutenir l'industrie spatiale française pour faire en sorte que ça reste un fleuron technologique, un outil aussi de souveraineté, parce qu'il n'y a pas de grande puissance qui n'a pas aussi un outil spatial au niveau français, au niveau européen. Et puis, faire en sorte aussi que ça amène de l'économie, des emplois, etc., etc. Et donc, ça contribue quelque part au développement de la France et de l'Europe de manière plus générale. Et là, je me suis dit, ça se trouve, on est en train de vivre cette transition, comme sur Internet, et le fait de ne pas bouger, si ça se trouve, on est en train de louper ce virage, et on sait ce qui s'est passé sur un certain nombre de sujets, que ce soit du cloud, que ce soit des plateformes numériques, quand on loupe le virage, et bien là, il y a des gens un peu plus audacieux, notamment nos amis américains qui ont le bon goût de savoir saisir un certain nombre d'opportunités. On risque de décrocher complètement, et donc je me suis dit, soit l'industriel que tu aurais aimé soutenir, que tu aimerais accompagner dans dans cette opération, cette aventure risquée. Et donc, bah, prends ton courage à deux mains et sois cet acteur-là.
Un parcours inspirant, finalement, qui nous rappelle le rôle et le soutien du CNES, qui a été rappelé par le président tout à l'heure, sur justement cet accompagnement industriel et ces évolutions qu'on voit, et cette fibre entrepreneuriale. Peut-être si on continue à aller avec toi pour nous présenter ton parcours, qui est très différent de Nicolas, mais on va dire, après des antennes, il nous faut aussi des propulseurs pour avancer avec nos satellites.
Oui, merci. Bonjour à tous. Je pense qu'on a un trajet assez similaire, Nicolas et moi, de sciences d'abord. J'ai dirigé une équipe de recherche à l'École Polytechnique et CNRS de 2006 jusqu'en 2017. Et pendant cette période, c'était vraiment le changement dans l'industrie spatiale. Et moi, j'étais en train de faire les recherches fondamentales sur de physique de plasma. Et pour avoir le financement, il faut une application. Donc l'application, c'était les propulsions, parce que ça fait plus rêver que les gravures de semi-conducteurs. Donc en fait, toutes les applications futures, c'était pour les propulsions électriques, parce que ça fait amener les étudiants, ça fait amener les fric, et ça monte leur recherche fondamentale. Et cette époque, c'était que pendant cette période, c'était qu'à peu près 10, entre 5 et 10 systèmes de propulsion électrique étaient lancés au monde entier. Donc c'était vraiment les nouvelles technologies. Et en 2010, quand le New Space est arrivé, on commençait à faire la miniaturisation de systèmes de propulsion, même si tous les clients qui ont parlé ne voulaient pas du tout les propulsions parce que les satellites étaient tout petits. Donc ce n'était pas vraiment une idée comprise par le CNES, par l'industrie, parce que les propulsions n'étaient pas vraiment pour les petits satellites à cette époque. Mais nous, on a commencé de voir comment est-ce que l'utilisation des satellites va être dans le futur. Et on a dit, maintenant, il faut vraiment sauter, il faut vraiment faire quelque chose, parce que dans le futur, tous ces satellites miniaturisés doivent avoir le système de propulsion pour changer les orbites, éviter les collisions, et ainsi de suite. Donc, quand on a commencé, c'était vraiment, on était vu comme un peu les aliens dans le monde du spatial, dans le monde du spatial français, qui est tout à fait normal. Donc on a tranché, on a fait beaucoup d'innovations soutenues par l'Europe. Donc c'était le financement de l'Europe d'innovation de rupture qui était le premier financement pour nous. On a aussi fait des tests en orbite la première fois avec les Chinois, parce que c'était très difficile à expliquer nos technologies internes. Et ça, c'est assez intéressant, mais c'est le même trajet que toutes les technologies de rupture qui en fait a du mal à se faire trancher local. C'est le même. Par exemple, le meilleur exemple, c'est le Kodak qui a inventé les caméras numériques, mais ils sont complètement ratés parce que c'est des chimistes internes. Donc nous, on sentait un peu cette technologie rupture. Il faut commencer à le développer. Et le seul choix que j'ai eu, c'était de créer une start-up parce que je voulais aller plus vite que dans le centre de recherche où j'étais. C'est comme ça que je demandais. Et maintenant, on a 100 systèmes en orbite et on ne peut pas livrer assez à nos clients au monde entier. On a 40 de clients au monde. On fournit maintenant le système de propulsion pour une dizaine de constellations, beaucoup entre eux, c'est l'observation de la Terre. Et on peut imaginer que l'observation de la Terre aujourd'hui, c'est une ampleur assez importante sur nos souverainetés et nos défenses. Donc là, on va doubler les tailles de production année par année pour fournir ces constellations.
C'est vrai qu'avec vos deux témoignages, on voit finalement l'enjeu industriel derrière vos space tech, les besoins de développer un outil industriel pour soutenir ce développement du spatial, de ces constellations. Mais finalement, ces constellations, pourquoi faire? Et je pense qu'on a Antoine qui est avec nous, qui pourra justement répondre à ces questions. Vous avez fait la transition toute trouvée, année avec l'observation de la Terre. Antoine, peut-être vous aussi, nous conter votre parcours et comment l'histoire de Kairos est née.
Oui, moi j'ai travaillé... Dans l'énergie, mon premier jour de travail, j'étais en Libye, j'étais bombardé par M. Reagan, qui n'aimait pas M. Kadhafi. Donc, c'est là où j'ai vu qu'il y avait un lien entre la géopolitique et l'énergie. Et en fait, en travaillant dans le monde de l'énergie, je me suis rendu compte qu'on avait un gros sujet. On n'allait pas réussir la transition énergétique, qui est une transformation de notre système économique, si on n'avait pas de données fiables autour du système énergétique. Or, c'est un secteur stratégique, protégé par les États et très opaque. Donc, il y a... On est un peu comme conduire dans le Monte Carlo la nuit, les yeux fermés et sans phare, quoi. Et c'est un peu ce qu'on voit d'ailleurs, parce qu'on a un peu de mal quand même à piloter cette transition. Donc en 2016, l'Europe a lancé Copernicus. Donc il y a eu des satellites incroyables qui ont été lancés et financés par l'Europe. Et moi, je me suis associé avec des chercheurs en satellite, en machine learning. On s'est dit vraiment, là, il y a un sujet. On va pouvoir utiliser cette masse de données incroyable qui vient de Sentinel, appliquer du machine learning dessus, de manière à pouvoir donner de la transparence autour des problématiques d'énergie et d'environnement. Donc voilà, c'était le sujet. C'est l'IA, enfin, ça ne s'appelait pas l'IA à l'époque, c'est machine learning, mais enfin bon. L'IA sur les données satellites. De Copernicus essentiellement, parce que contrairement aux satellites classiques, Copernicus reprend la même image au même moment, donc on peut vraiment mettre du traitement, enlever les ombres, enlever les bruits, donc en fait on a énormément d'informations qu'on peut utiliser, et c'est vraiment un terrain de jeu incroyable pour l'IA. Donc ça c'était le kairos, hein, le moment dans la mythologie grecque, comment je combine le machine learning avec les données satellitaires. Alors, on n'a pas voulu aller dans le domaine du militaire parce que c'est un domaine où les enjeux ne sont pas tellement économiques, ils sont plutôt de précision et de réactivité. Donc, on a commencé dans le monde économique. Et les premiers qui ont utilisé ça, c'est les traders de matières premières parce qu'on leur donnait une visibilité sur la production, consommation d'énergie. Et les prix sont très volatiles et ils peuvent gagner de l'argent avec ça. Notre deuxième cas d'usage a été avec les États, les Nations Unies, en particulier l'Europe, sur la mesure du méthane et des gaz à effet de serre. Donc là, on a fait vraiment une mission de service public financée essentiellement par l'Europe et le CNES, qui est maintenant été repris par les Nations Unies. Donc ça, c'était un gros sujet. On était les premiers à pouvoir identifier d'où venait le méthane, qui est quand même responsable de presque de la moitié du réchauffement climatique à venir. Donc personne ne connaissait rien. C'était un très, très gros sujet. Et maintenant, on se focalise sur des sujets de risques physiques, donc l'inondation, feux de forêt. Les feux, c'est la végétation. La végétation, on peut la mesurer par les satellites. Et donc, on peut vraiment donner des informations à la fois aux pompiers, aux assureurs. Aux assureurs, ils peuvent assurer des choses qui n'étaient plus assurables. Donc, on a un vrai effet sur le bien-être de nos concitoyens au niveau mondial. Et les pompiers, ben, ils peuvent détecter des feux en avance et puis éviter que ça brûle trop. Donc, on a vraiment des usages très, très concrets de l'observation de la Terre grâce vraiment à des algorithmes d'IA très, très perfectionnés.
Merci. Donc, vous êtes avec nous pour partager aussi votre expérience, vos recettes de succès. Avec le recul, quel conseil auriez-vous aimé recevoir avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat spatial? Antoine.
Ouf. Alors, je pense que... Alors, le premier, c'était que les fournisseurs d'images allaient me tondre. Donc, en fait, ils vous ont un truc assez incroyable, c'est qu'ils vous disent, voilà, si tu ne veux pas payer trop cher, il faut que tu te commites sur un minimum de marché. Donc, vous vous dites, oui, moi, je vais y arriver. Et puis après, quand vous demandez l'image, elle n'est pas disponible, elle n'est pas disponible, elle n'est pas disponible. Et à la fin, vous n'avez pas consommé, mais il faut quand même payer. Donc ça, quand même, il y avait un système un peu curieux. Donc, on a... Bon, qui n'existe heureusement pas avec les données publiques. Le deuxième sujet, c'est vraiment... qu'attendre de la puissance publique. Je pense qu'il faut en attendre un peu, mais pas trop, parce que les cas d'usage doivent être, pour moi, doivent créer une vraie valeur. Donc, je ne parle pas des militaires, qui est vraiment un autre sujet, mais si on crée un système d'observation de la Terre qui est censé avoir une vision économique, il doit y avoir des clients. Donc, il faut vraiment se focaliser sur les clients et créer des cas d'usage qui se justifient économiquement par l'usage des clients. Et ça, c'est vraiment très important. Savoir utiliser le soutien de l'État, mais savoir aussi où s'arrêter, en particulier les subventions, c'est bien au début, mais après, c'est la mort des startups, parce qu'en fait, c'est du chiffre d'affaires négatif, et vraiment, penser que les subventions vont vous permettre de vivre, c'est vraiment une très, très grosse erreur.
Anne. Oui, le premier, c'est est-ce que vous êtes prête pour les roller coasters? C'est très dur. Les vies entrepreneurs, c'est très dur. C'est extrêmement excitant, mais aussi extrêmement dur. Et si on aime ça, bah, go for it. Mais si on n'aime pas ça, ou si on n'est pas prêt de ça, peut-être c'est mieux de travailler dans une start-up d'abord pour le voir. La deuxième chose qui est un peu plus sérieuse, c'est quand j'ai commencé, j'étais chercheur, j'étais dans le labo, entourée avec des autres chercheurs et des autres physiciens. Et le premier conseil que j'ai eu, c'est de sortir de ton labo et rencontrer les gens. Et je dis, mais comment je fais? Je ne savais pas comment créer un network, faire tout ça. Donc, il faut 5 réunions par semaine avec les gens que tu ne connais pas. Ça, c'est énorme. Donc, j'ai dit, OK, 3, ça va. Je commençais avec les réunions de 3 personnes que je ne connaissais pas. Et comment on augmente, c'est de poser les questions à ces 3 personnes qui je dois voir ensuite. Et c'est comme ça qu'on comprend le network, on comprend les clients et tout l'entourage. Ce n'est pas que les clients qu'il faut comprendre, c'est aussi tout cet écosystème qui est aujourd'hui ici, les compétiteurs, mais aussi ceux qui sont les collaborateurs, qui ont les mêmes clients, mais qui n'ont pas tes compétiteurs. Et, par exemple, Anyways. Et ces acteurs-là sont extrêmement importants pour comprendre parce qu'on peut échanger les bonnes pratiques. Et la troisième chose, c'est d'être très vigilant sur les égos et les gros levées de fonds. Parce que quand on commence les startups, très souvent, on est vraiment dans les rush pour le financement. Et c'est les plus gros levées de fonds qui est le plus important. Et c'est comme ça qu'on a les succès. Donc, les succès, c'est les levées de fonds. Les succès, c'est le nombre d'employés et combien et telle vitesse tu vas. Ce n'est pas ça qui compte, à mon avis, et à mon méthode à développer les startups. On était 24 personnes jusqu'à l'année dernière. On a grandi très, très doucement avec le bootstrapping à mort. J'ai pensé à les centaines d'euros de comment dépenser l'argent. Et comme ça, on n'a fait que 4 millions d'euros de levée de fonds. Aujourd'hui, on est break-even et on vit avec nos propres argent. Aujourd'hui, on est 55 et on va être 70 à fin d'année. Donc maintenant, c'est pour nous les périodes de grandir parce qu'on a des clients, on fournit des systèmes au monde entier. Donc c'est maintenant qu'on peut grandir. Donc, faites très, très attention avec les gros têtes de levée de fonds et tout ça.
Nicolas ?
Alors moi, on aurait pu me donner plein de conseils parce que dans cette aventure, j'ai fait un paquet de conneries, si vous me permettez de le dire. Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'école d'entrepreneur. Il y a un moment, il faut y aller. Un conseil qui m'a marqué, c'est un certain nombre d'anciens collègues experts du CNES qui voyaient un petit peu ce vent d'air frais arriver, qui m'ont dit « vas-y, fonce, si je n'étais pas à quelques années de la retraite, je viendrais avec toi ». Donc ça, une passion, une flamme qui donne beaucoup d'énergie, parce que entreprendre, c'est une certaine foi aussi. Tu le disais, Anne, quand on s'est lancé, nous, dans ces périodes-là, enfin, en tout cas, vu de la France, ces sujets de constellation de New Space, c'était vu comme une connerie. il faut le dire. Les choses ont énormément évolué depuis, et tant mieux. Mais il a fallu, au début, c'était un petit peu compliqué. Ça paraissait fou, voilà, de pouvoir partir d'une feuille blanche et se dire, tiens, on va être un acteur majeur, donc des grands équipementiers leaders dans leur domaine, des fournisseurs de services, des nouveaux lanceurs, ça paraissait assez fou. Et puis, bah, voilà, il a fallu un petit peu faire ses preuves pour casser ces mindsets, montrer que c'était possible, montrer qu'il y avait des choses à faire aussi avec les acteurs traditionnels. Ça, je reviens sur un des propos qui a été dit, c'est hyper important parce qu'en effet, il n'y a pas d'opposition. C'est juste qu'on est en train d'aller vers la phase d'après avec les nouveaux entrants, les acteurs traditionnels, les nouveaux entrants amenant de la compétitivité aux acteurs traditionnels, les acteurs traditionnels amenant leur expérience, leur savoir-faire pour mettre en œuvre des grands projets industriels aussi. Et en fait, c'est ensemble qu'on va réussir à construire ce qui va être le spatial de demain. Donc, ça, voilà. Et puis, voilà, je dirais avoir la foi et puis garder même si on est dans l'espace, garder les pieds sur terre, beaucoup de bon sens dans ce que dit Anne, parce qu'à la fin, bah, une entreprise, c'est aussi une activité économique. Il faut qu'elle puisse être sustainable, hein, comme notre monde spatial. Et voilà.
D'accord, merci.
Alors, peut-être une dernière question. Je vois que l'heure tourne, mais Antoine, vous parliez tout à l'heure des startups et la nécessité de ne pas vivre sur des subventions, vivre avec du chiffre d'affaires, travailler, vendre et produire. On voit dans le modèle de Kairos finalement des activités entre un secteur public et des clients institutionnels en tout cas, et des clients privés et commerciaux. Comment vous arrivez à distinguer ces deux marchés qui sont très différents premièrement, et sur le marché institutionnel, quelle serait votre recommandation ou votre évolution s'il fallait en avoir une pour travailler avec ce marché-là?
Bon, d'abord, on a vraiment commencé par des acteurs commerciaux. Donc, c'est vraiment été notre première cible parce que, je pense, dans une start-up, il faut vraiment ne compter que sur soi-même. À la fin, c'est du travail, beaucoup de travail, énormément de déceptions et des succès. Mais il faut vraiment aller chercher les clients, quelquefois avec les dents, et les avoir, les garder, satisfaire ce qu'ils vendent. Donc on a vraiment créé notre modèle économique qui fonctionne, on est aussi rentable, etc. Parce qu'on avait des clients qui gagnaient de l'argent avec nos services. C'est vraiment, ça a été la base de ce qu'on a fait, qui nous a donné une certaine légitimité ensuite pour aller se positionner sur des... notamment sur les sujets France 2030 qui étaient bien structurés, parce que là, ce n'était pas des subventions, c'était des contrats. Mais on n'a pas voulu aller, il n'y a pas beaucoup de subventions qu'on n'a pas été chercher, parce que vraiment, c'est du chiffre d'affaires négatif. Nous, on doit gagner de l'argent. On ne peut pas travailler avec un programme sur lequel on nous rembourse 70% des dépenses. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est peut-être intéressant au tout début, qui fonctionne dans les logiques industrielles où il y a du CAPEX, parce que ça réduit le coût du CAPEX. Mais quand on est des sociétés de services, Ça ne fonctionne absolument pas. Donc, il y a eu le programme France 2030 piloté par le CNES et qui a été très, très bien organisé et qui nous a permis effectivement d'avoir des contrats. Donc, ce n'est pas des subventions, c'est des contrats. Et qui nous permettent d'appliquer notre technologie, qui est une technologie d'IA qui est multi-cas d'usage, et de développer des cas d'usage pour les pompiers, pour les gendarmes, pour différentes parties de la souveraineté nationale qui ont besoin de ce type d'informations. Mais c'est parce qu'on avait déjà créé la technologie, qu'on savait faire, qu'on était crédible, qu'on a pu ensuite se positionner sur des gros contrats sur lesquels les gros acteurs traditionnels se positionnaient aussi, avec lesquels on était en concurrence. Donc la clé, c'est qu'on avait créer une vraie compétence validée par le marché qu'on a pu ensuite déployer sur d'autres segments, notamment sur des problématiques de souveraineté en France.
Alors c'est vrai que c'est intéressant comme modèle, Anne, je pense que tu peux partager aussi alors sur un tout autre écosystème, mais le fait de passer par du commercial avant de développer des contrats institutionnels. Aujourd'hui, vous en avez parlé avec Nicolas, le fait que le New Space, ou en tout cas vos sociétés, il y a 7 ans ou il y a 10 ans, étaient vues un peu comme des aliens du spatial et de l'industrie spatiale française. Je pense, ou en tout cas, j'espère aujourd'hui, avec ces assises, que vous n'êtes plus perçus comme des aliens, bien au contraire. Vous êtes perçus comme des acteurs innovants et peut-être l'avenir, et bien sûr l'avenir du secteur. La question que je me pose, c'est la suite. Qu'est-ce qu'on voit pour l'avenir du New Space français, toi, de ta fenêtre, côté Trust Me, et comment tu imagines la suite pour l'évolution de l'industrie?
Oui, je pense que d'abord, je voulais souligner les discours qu'on vient d'entendre de François et Jacques. J'ai bien aimé ce discours. Et bienvenue dans le monde spatial. Je pense que c'est vraiment le temps où le old space et new space est vraiment pas le old space et new space. C'est un mélange maintenant. Moi, je vois l'industrie spatiale revenir vraiment dans une industrie. Et ça veut dire qu'il n'y a plus ces tailored systems qu'on est en train de développer une par une parce que c'est très compliqué. C'est de produire en masse et de fournir le système clé en main pour la plupart de satellites demain. Et ça, c'est vraiment une industrie. Et il faut qu'on aille très, très vite vers ça, parce que sinon, toute l'ambition qu'on a pour le spatial de demain ne peut pas être réalisée, parce que l'industriel n'arrive pas. Donc, les prochaines étapes, c'est vraiment d'être capable d'industrialiser nos technologies, et ce n'est pas évident, c'est très très compliqué. Là, on a doublé nos productions année par année, et c'est compliqué de garder les qualités de système du spatial dans le même temps de produire des quantités assez importantes. Donc ça, c'est un challenge de New Space et de Old Space inclus.
Nicolas Capet, la dernière question. La stratégie spatiale nationale est en cours de définition. Si vous pouviez y faire intégrer une recommandation, laquelle serait-elle ?
Oula, c'est une sacrée question. Non, peut-être, en tout cas, pour y apporter un élément de réponse sans prétendre y répondre. Parmi nos challenges, et nos enjeux d'ailleurs de souveraineté, vraiment est au cœur de la compétitivité. Si on a un tissu industriel qui est compétitif, alors on restera souverain. À chaque fois qu'on a perdu de la compétitivité, dès lors qu'on n'était plus capable d'accéder à un marché mondial. Aujourd'hui, il faut être très lucide. Enfin, nous, on est nés international, c'est-à-dire que nos premiers clients étaient à l'export pour l'essentiel, parce que le marché français est trop petit, le marché européen est trop petit, il faut en être conscient. Et donc de toute façon, tout cet enjeu voilà, de cette nouvelle ère du spatial, c'est un marché qui est maintenant compétitif au niveau mondial sur toute la chaîne de la valeur, les services, les accès au lancement, etc., etc. On est tous maintenant en compétition de manière mondiale. Donc il faut aller chercher cette compétitivité, il faut comprendre profondément que le spatial, ce n'est plus que de la R&D, il y a cette dimension d'industrialisation qui est présente, en particulier pour nous équipementiers, parce qu'il faut pouvoir produire vite, en qualité, c'est ça qui reste l'essence du spatial. Le low cost, je pense, n'arrivera pas à percer. D'ailleurs, on le voit avec les évolutions de certains acteurs qui ont commencé comme ça, qui sont tous en train d'essayer de monter en gamme en termes de qualité. Et être conscient que aller industrialiser du spatial, c'est aussi quelque part une certaine forme de R&D. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. C'est pas juste il y a qu'à multiplier. Non, non. C'est beaucoup plus profond que ça. On en cherchait dans les process, on en cherchait dans les points de contrôle, en investissant aussi dans la qualité. Donc ça fait partie des éléments qui sont importants, sur lesquels je pense en tout cas un certain nombre d'acteurs et notamment nos nouveaux entrants doivent être soutenus sur le sujet pour pouvoir vraiment amener ces éléments de compétitivité au niveau mondial.
Merci. Et merci à tous les trois.
Merci, c'était le mot de la fin. Merci Nicolas. Merci à tous.